Complètement à l'Est sur RCN.
Bonjour Elfenoul, aujourd'hui on se retrouve dans l'émission Complètement à l'Est. Je vais vous ramener au Café des Aidants où vous allez entendre des partages d'expériences. Ensuite, nous irons à la rencontre de Nancyens qui prépare Noël. Et dans une deuxième partie avec nos invités, nous irons à l'Institut de cancérologie de Lorraine pour parler des cancers masculins.
RCN, Complètement à l'Est, Elfenoul.
Le Café des Aidants, je trouve que c'est la première fois que je découvre, parce que je n'avais pas l'occasion avant d'en profiter. Et je trouve que c'est vraiment bien, ça nous ouvre les uns vers les autres, chacun son problème, et puis bon, je trouve que la discussion nous apporte pas mal.
Moi, le Café des Aidants, ça m'aide aussi, parce qu'on parle beaucoup de choses, chacun parle un peu de sa vie, de son ressenti, et puis ça aide beaucoup.
Le Café des Aidants, que je connais depuis très longtemps, m'a beaucoup également aidé à exprimer toute ma souffrance par rapport justement aux entrées en EHPAD, etc. Enfin, de l'aide qu'on peut apporter à notre famille, nos parents ou nos enfants. Et voilà, on a une très grande écoute de la part de Claire, qui est vraiment formidable. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Alors moi, je m'appelle Gilles, et puis comme tous les autres, je suis au Café des Aidants, parce que j'aide ma maman. Avant, c'était les parents, mais maintenant, j'ai plus que ma mère. Et c'est vrai que quand on est aidant, on est embarqué dans une belle aventure humaine, mais on s'oublie. Et de pouvoir rencontrer d'autres aidants, on se sent moins seul. On peut partager, on peut conseiller, on peut pleurer aussi, on rigole aussi, heureusement. C'est vraiment partager un bon moment et on a le plaisir de se retrouver.
Alors, je fais partie du Café des Aidants depuis déjà un bon moment parce que j'avais beaucoup de problèmes avec mon mari et on partage beaucoup, on s'entraide, on s'apporte des fois des solutions et puis c'est très bien, c'est toujours très bien.
Alors je suis la psychologue qui anime le Café des Aidants depuis plusieurs années sur Nancy. Il se déroule au Kinépolis, au restaurant L'Angeluzzo. On se réunit au restaurant L'Angeluzzo une fois par mois. Initialement, on est tous amenés ici à échanger autour de cette thématique, même si souvent tout le monde est plus pressé de parler aussi des situations individuelles de chacun. Le groupe permet aussi d'avoir une intelligence collective, d'avoir des solutions qui sont proposées aussi par les autres participants. Entendre des solutions proposées par d'autres participants, c'est souvent mieux accepté que par des professionnels, donc c'est aussi extrêmement riche. Et ça reste aussi une entraide, on est vraiment dans un phénomène d'entraide au sein du Café des Aidants. Et d'ailleurs, le bénéfice des fois va même au-delà. On a des participants qui vont par exemple échanger leur numéro de téléphone, ou le Café des Aidants va même en dehors de son site. Le Café des Aidants est actuellement porté par la plateforme Accueil Accompagnement Aidant, qui est un dispositif financé par l'ARS et qui est porté localement par l'OHS. Un dispositif dont le Café des Aidants est juste un des volets, parce que la plateforme Accueil Accompagnement Aidant, c'est avant tout un accompagnement individuel des personnes tout du long du parcours d'aidance. En parallèle, on met en place beaucoup d'activités, que ce soit de la sophrologie, de l'art thérapie, de l'ergothérapie, des modelages crâniens, énormément d'activités pour permettre d'avoir du bien-être au niveau des aidants, avoir des outils pour lâcher un peu prise sur le quotidien et surtout qu'ils réapprennent à prendre soin d'eux. Parce qu'un aidant a souvent tendance à se négliger et nous, on va être là pour leur réapprendre à prendre soin d'eux. Voilà, et je vais passer à la dernière participante.
Bon, moi, c'est Martine. Je suis pour la première fois au Café des Aidants. Je trouve qu'il y a une chaleur humaine importante, le partage aussi très profond, très honnête. Et depuis que j'ai rencontré Claire, donc ma psychologue, je me sens mieux, je participe à tout ce que je peux participer, sophrologie, Café des Aidants, mais je pense que je viendrai au prochain.
J'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la solution non médicamenteuse. J'ai bien aimé cette formulation. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot dessus par rapport à ça ?
Alors, en effet, par rapport à tous les ateliers qu'on met en place, hein, comme on disait tout à l'heure, pour vous, le café des aidants, est-ce une solution, une thérapie non médicamenteuse ?
Oui.
Oui.
Oh
ben oui.
Bon, voilà. L'avis semble unanime. Hein, et voilà, c'est aussi des façons de permettre d'aller bien ou d'aller mieux, hein, sans passer forcément par quelque chose de médical, de chimique. Et comme je disais tout à l'heure, hein, l'idéal, c'est d'avoir cet accompagnement là tout du long, hein, pour lâcher un petit peu la soupape, hein, de façon régulière, et pour éviter à un moment donné une décompensation. Et puis comme un des aidants ici présent disait tout à l'heure, et ici on vient, on va lâcher beaucoup de choses dures, graves, mais aussi on va aussi beaucoup rigoler. Hein, donc on va passer par toutes ces émotions, hein, on va libérer plein d'émotions qui vont faire qu'au quotidien, ça va se passer beaucoup mieux.
RCN, complètement à l'est, elle fait nous.
On se retrouve juste après A Stay for One Night de Good Vibe Sound. Emmène maintenant à la rencontre des anciens qui préparent Noël.
Complètement à l'est sur RCN.
Eh ben, nos cadeaux sont finis. En fait, on est une grande famille, donc on s'y prend fin août, ouais, pour pouvoir faire vraiment plaisir à tout le monde et faire des beaux trucs. Voilà. Ouais. Et puis, ben, niveau déco, ben, on commence à acheter, mais on met jamais avant la Saint-Nicolas.
Ok. Donc, vous êtes encore un peu après.
On attend toujours que la Saint-Nicolas passe pour faire la décoration de la maison.
D'accord.
Mais on achète quand même avant un petit peu, on anticipe. Et puis, là, c'est des petits cadeaux, par exemple, que je vais mettre le jour de Noël.
Ouais.
pendant le repas, on va les emballer, puis comme ça fera une petite activité pour qu'on devine, puis les gens partiront avec.
Ok.
Ouais, on est un peu... J'adore les fêtes, donc c'est bon. Et voilà.
Là, de base, j'étais venue pour regarder un peu, pour me promener.
Ouais.
Mais sinon, les cadeaux de Noël, c'est vraiment quand j'y pense, quand quelque chose me plaît.
D'accord. Et par rapport aux décorations
Décorations, c'est quand j'en ai envie.
D'accord.
Voilà, c'est plus quand j'en ai envie, quand je suis motivée.
Eh bien, c'est une bonne question. Je sais que les magasins nous poussent à acheter tout à l'avance, mais non, nous... Moi, avec les enfants, j'achète des petites choses pour créer les 2 semaines avant.
Oui.
Et juste avant, ça sera nos activités,
d'accord,
quelques jours avant. Mais sinon, non, je n'achète pas un mois à l'avance.
Ok, même par rapport aux décorations de Noël.
Non, c'est vrai que ça pousse, mais non.
Okay,
pas avec 3 enfants. C'est pas possible, le budget n'est pas le même.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est très tentant.
Pour moi, à titre personnel, non. À titre professionnel, oui. Pour décorer la maison, oui. Mi-novembre, c'est bien.
Okay.
Bah, surtout chez Action, parce que... ils ont une fête d'avance,
ouais.
Donc si on s'y prend vraiment trop tard, alors qu'il y a plein de produits super géniaux à des prix super intéressants,
ouais.
Sinon on loupe tout, quoi.
Donc, ouais,
on a plutôt intérêt à se dépêcher.
J'ai la pression un petit peu de mes enfants, donc il va falloir que je démarre assez rapidement.
Ouais.
Donc d'ici une semaine, je pense que Noël sera installé à la maison.
D'accord. Ah oui, par rapport aux déco, même aux cadeaux
Ah non, par rapport aux déco.
D'accord.
Oui, tout à fait.
Les cadeaux de Noël, c'est beaucoup plus tard.
Bah, c'est le 24 au soir. Ah, pour les achats.
Oui,
ça
les
va
achats.
Ça va être dans le mois et courant décembre, effectivement.
Bah là, du coup, pour commencer les décos, c'était aujourd'hui.
Ouais.
Voilà. Et puis les cadeaux de Noël, on va commencer, je pense, d'ici la semaine prochaine. Il y a bientôt le Black Friday en plus.
Ouais, c'est ça.
Donc on va en profiter.
AliExpress.
Ouais.
Puis c'est tout pour le moment. Puis d'accord, je recommanderai sur Chine au mois de décembre.
D'accord, donc vous êtes plus sur Internet, vous
commandez. Oui, il y a plus de choix sur Internet.
Okay.
Puis il y a des trucs qui sortent du lot, donc comme j'aime mieux prendre des trucs qui sortent du lot.
Vous achetez des cadeaux ou les décos?
Je les achète. Même les décos, les décos, je les ai achetés ici, mais j'ai déjà fait mon village. Parce que j'ai fabriqué mon propre village de Noël.
D'accord.
J'ai fait mes montagnes, j'ai fait les grottes, j'ai fait une crèche.
Ok, donc là, la déco, elle est déjà
faite. Oui, elle est faite. Oui, j'ai déjà tout préparé à l'avance.
Ah bah, la déco de Noël, on a commencé la semaine dernière.
Ouais.
On a acheté un petit bougeoir et des bougies.
D'accord. Et donc vous commencez à les installer ou vous vous achetez simplement
Non, juste acheter, on installe pour la Saint-Nicolas.
D'accord. Et par rapport aux cadeaux, c'est maintenant ou un peu plus tard?
Quand l'occasion se présente, j'ouvre l'œil à partir de maintenant.
Alors moi, j'achète vers Noël, on achète des cadeaux pour toute la famille et on achète les sapins et on a un petit Père Noël.
Okay.
À côté du sapin, il est un peu grand. Qui bouge et il fait comme ça.
D'accord.
C'est trop
bien. Et vous avez un petit
mot. Et vous, c'est moi. Moi, je prends des cadeaux. Genre, mon père est choisi et tout. Et après, on s'amuse avec, on parle, on prend des bonbons.
Ouais.
Ma famille, on appelle ça des marchandises.
Okay.
Voilà. Après, voilà, c'est bon. Je fête pas.
Ouais.
Parce que c'est haram. Et en fait, mon père, il travaille et il lui donne des tickets pour comme ça. On va dans un concert et vous voyez.
Ça vous fait office de cadeau quoi.
Oui, voilà. On fait pas Noël mais on prend des cadeaux genre.
Voilà, okay, c'est pour participer quand
voilà,
même.
Voilà, voilà.
Pas se sentir à l'écart.
On sent pas les.
Okay.
Sinon j'ai fait cadeau.
À la rentrée il y a les autres qui nous disent on a fêté Noël.
C'est haram.
Okay. Ah, merci beaucoup alors. Dans un instant, nous serons à l'Institut de cancérologie de Lorraine pour parler des cancers masculins. Pour l'instant, nous allons écouter Adios Tornados Effect de Vanish La Piscine.
Ok. Hors série. Ça, c'est l'histoire de Gwenaël. Ça va bien avec son prénom.
Sexy woman.
let's go. Hey. C'est comme ça qu'elle s'amuse, faut la laisser. Elle vit mon vie dans ses yeux, je peux percer. C'est pour ça que je nage dans ses pensées. Paradis dans son cerveau, elle me laisse en plus. C'est comme ça qu'elle s'amuse, faut la laisser.
À l'Est sur RCN, l'invité de la semaine.
On se retrouve aujourd'hui avec Dr Simon Camille, donc oncologue médical. Nous allons traiter du sujet du cancer de la prostate. Bonjour Madame Camille Simon, alors vous pouvez vous présenter.
Bonjour, je m'appelle Camille Simon, je suis oncologue médical à l'Institut de cancérologie de Lorraine. C'est une spécialité médicale dans le domaine de la cancérologie où en particulier on prescrit les traitements médicaux du cancer, donc les thérapies ciblées, les hormonothérapies, les chimiothérapies, les immunothérapies, tous les traitements systémiques en fait du cancer. C'est un métier qui nous permet d'avoir un suivi personnalisé de nos patients et une relation particulière avec nos patients qu'on suit pendant la durée de leur pathologie cancéreuse. C'est un travail qui permet de travailler en équipe en fait avec d'autres professions médicales, en particulier les chirurgiens, les radiologues, les radiothérapeutes, les médecins nucléaires. Et on a des discussions hebdomadaires avec nos collègues d'autres spécialités pour décider en particulier des traitements de nos patients.
Je m'occupe plus particulièrement des cancers urologiques et en particulier des cancers de la prostate.
Justement, nous sommes là pour parler du cancer de la prostate. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet, s'il vous plaît ?
Alors, le cancer de la prostate, c'est un cancer qui se développe au niveau de la prostate. La prostate, c'est une glande de l'appareil génital masculin qui se situe en avant du rectum et en dessous de la vessie. Le cancer de la prostate, c'est un cancer qui se développe très fréquemment chez les hommes. Il n'y a pas de prostate chez la femme, donc il ne peut pas y avoir de cancer de la prostate chez la femme. C'est un cancer qui arrive le plus souvent à partir de l'âge de 50 ans. Il y a certains facteurs de risque qui peuvent augmenter le risque de développer un cancer de la prostate, notamment le fait d'avoir des antécédents familiaux chez son père ou son frère ou son enfant de cancer de la prostate. C'est un cancer qui touche aussi un peu plus les hommes de la population afro-antillaise ou africaine.
Merci, c'est toujours bon à savoir étant donné que je suis issu de populations africaines. Alors sinon, est-ce que vous avez des données chiffrées concernant le cancer et aussi comment anticiper donc un futur cancer de la prostate ?
Donc le cancer de la prostate, c'est le premier cancer le plus développé chez les hommes. Il arrive chez près de 60 000 hommes par an. En France, il y a plusieurs symptômes qui peuvent alerter sur la survenue d'un cancer de la prostate, en particulier des problèmes urinaires qui peuvent se manifester par un besoin fréquent d'uriner par rapport à d'habitude, ou bien des difficultés à commencer ou à se retenir d'uriner, ou bien un jet d'urine qui serait un peu différent. Il peut aussi se manifester par des problèmes sexuels ou par la présence de sang dans l'urine ou dans le sperme. Il peut y avoir aussi des douleurs osseuses qui peuvent parfois révéler une évolution d'un cancer de la prostate. En France, chez les hommes, il y a un dépistage qui est individuel qu'on peut proposer chez les patients entre 50 et 75 ans ou plutôt s'il existe des facteurs de risque importants. Le dépistage, il est individuel, c'est-à-dire qu'il est effectué par un médecin et qui consiste en un examen clinique avec un toucher rectal pour permettre de sentir une partie de la surface de la prostate et vérifier s'il n'y a pas une anomalie à l'examen clinique et un dosage de prise de sang du taux de PSA.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le taux de PSA ?
Le taux de PSA, c'est une anomalie, si elle est augmentée, qui peut se voir dans la prise de sang et qui peut être augmentée quand il y a un cancer de la prostate, mais il n'est pas augmenté que en cas de cancer de la prostate. Parfois, il peut être augmenté aussi dans certaines situations infectieuses ou quand il y a une hypertrophie de la glande prostatique sans forcément qu'il y ait un cancer de la prostate. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien expliquer aux patients avant de faire le dépistage ce que ça implique. Et une augmentation du taux de PSA n'est pas seulement spécifique du cancer de la prostate. Et il y a des rares cas aussi où il peut y avoir un cancer de la prostate et un taux de PSA qui est quand même faible.
Et maintenant, si une personne pense avoir des symptômes, qu'est-ce que vous lui conseillerez de faire dans ce cas-là ?
En cas de symptômes suspects de cancer de la prostate ou si lors du dépistage individuel on retrouve des anomalies qui puissent faire suspecter un cancer de la prostate, on propose aux patients de rencontrer en consultation un urologue qui est un médecin qui va leur proposer de réaliser des biopsies de la prostate. C'est faire un prélèvement au niveau de la prostate pour vérifier s'il y a des cellules cancéreuses ou non. Et c'est l'examen qui permet de poser véritablement le diagnostic de cancer de la prostate. Ensuite, quand le diagnostic de cancer de la prostate est établi, il y a plusieurs types de traitements qui peuvent être proposés en fonction du stade de la maladie et de l'agressivité ou non des cellules cancéreuses. En cas de cancer de la prostate sans critères d'agressivité particulier, on peut proposer une surveillance active puisque c'est un type de cancer qui se développe très très lentement dans le temps. D'autres types de traitements peuvent parfois être proposés comme une chirurgie ou une radiothérapie ou d'autres techniques de radiothérapie qui peuvent être de la curithérapie. Et il y a une autre catégorie de traitement qu'on propose dans certains cas de cancer de la prostate, c'est une hormonothérapie. Ensuite, dans les situations plus avancées où il existe des métastases, il y a des hormonothérapies de nouvelle génération, c'est des traitements qui se prennent par voie orale qui peuvent être proposés, ou des chimiothérapies. Et encore dans les... dans certains statuts avancés, parfois on peut proposer des traitements de radiothérapie interne vectorisée.
Alors, comment vit-on lorsqu'on est atteint du cancer de la prostate, donc après les traitements ou après une certaine chirurgie ?
Alors, dans la plupart des cas, on vit très bien et on reprend une vie normale. Chez certains patients, dans les suites des traitements, qu'ils soient chirurgie ou radiothérapie, il peut parfois y avoir des effets secondaires qui peuvent parfois perdurer un peu dans le temps au niveau du système urinaire, donc des problèmes urinaires ou des problèmes sexuels.
Et pour finir, est-ce que vous avez des recommandations à nous faire ou une petite prévention concernant le cancer de la prostate ?
Nous, on recommande que les hommes, à partir de 50 ans ou quand ils sont un peu plus jeunes, ils puissent aborder le problème du cancer de la prostate avec leur médecin traitant pour évaluer en discussion avec le médecin traitant l'intérêt de réaliser un toucher rectal et un dosage sanguin du taux de PSA.
Merci beaucoup. Nous allons écouter maintenant Kérosène de Yves Tumor.
Thank you. complètement à l'est sur RCN, l'invité de la semaine.
On se retrouve maintenant avec Dr Lionel Geoffroy, oncologue médical. Bonjour Monsieur Geoffroy, est-ce que vous pouvez vous présenter et donc nous parler du cancer des testicules ?
Bonjour, merci. Donc je suis oncologue médical à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Je m'occupe entre autres des cancers urologiques dont les cancers du testicule font partie. J'exerce la même profession que ma collègue. On a tous ce qu'on appelle des spécificités. En fait, on a développer des domaines d'expertise dans certaines pathologies et on ne prend pas en charge des patients atteints de toute pathologie tumorale, mais de certaines pathologies. Alors, moi particulièrement, je m'occupe de pathologies urologiques, de pathologies cutanées et de pathologies ORL, des tumeurs de la gorge, pour préciser un peu les choses. Voilà, donc on travaille dans un centre de lutte contre le cancer et cet établissement ne prend en charge que des patients atteints de maladies cancéreuses. Les cancers du testicule, c'est quelque chose d'un petit peu particulier parce que ce sont des tumeurs rares. C'est 1% des cancers chez l'homme, c'est environ 2800 cas annuels en France. Mais ça a la particularité de toucher des hommes jeunes avec deux pics d'âge entre 20 et 30 ans et 30 et 40 ans. Donc c'est le premier cancer chez l'homme à cet âge-là, notamment entre 20 et 30 ans. Voilà, c'est une tumeur qui est donc peu fréquente, mais qui est hautement curable, même à un stade avancé. On arrive à guérir la majorité des patients. Il y a très peu de symptômes au départ. C'est essentiellement lié à la perception d'un nodule, d'une boule au niveau du testicule, qui peut être plus ou moins grosse, sachant que dans la majorité des cas, ce nodule, cette boule n'est pas douloureuse, ce qui fait que ça inquiète pas forcément et que les patients ne consultent pas forcément tout de suite après avoir découvert cette boule. Dans la majorité des cas, c'est le patient lui-même qui découvre ça, et le conseil qu'on peut donner, c'est que si l'on palpe une anomalie quelconque au niveau du testicule, il faut consulter pour avoir un avis médical et réaliser des examens si nécessaire. Il n'y a pas de dépistage organisé systématique. Il y avait par le passé un examen clinique qui était fait quand les jeunes allaient à l'armée, quand la conscription existait, mais comme ça n'existe plus, il n'y a plus d'examen systématique. Donc la seule façon de détecter, c'est de faire une autopalpation des testicules pour vérifier si on n'a pas de nodules ou de lésions anormales. Voilà, c'est une tumeur qui se traite très très bien, mais parfois on peut avoir des maladies très avancées avec des métastases parce que le patient soit ne s'en est pas rendu compte, soit n'a pas osé consulter alors qu'il avait retrouvé une lésion au niveau du testicule. Les traitements de ce type de pathologie sont essentiellement passe par la chirurgie, mais aussi les traitements médicaux, notamment la chimiothérapie pour les stades les plus avancés. Donc voilà, ce sont des tumeurs rares mais hautement curables, et le principal conseil que l'on puisse donner, c'est d'exercer une autosurveillance, vérifier qu'on n'ait pas d'anomalie testiculaire que l'on puisse palper, auquel cas il faut consulter son généraliste puis éventuellement un urologue en fonction des constatations. Il y a très peu de facteurs de risque connus. Il y en a un seul qu'on appelle la cryptorchidie, qui est l'absence de descente du testicule dans le scrotum dans l'enfance. Et plus le testicule est descendu tardivement, plus il y a un risque qu'il y ait une dégénérescence, donc une maladie cancéreuse. C'est à peu près le seul facteur de risque connu, enfin en tout cas reconnu. Il y a peut-être certaines prédispositions familiales, mais c'est rare. Le conseil qu'on peut donner, c'est si son père ou son frère éventuellement a eu d'une personne a eu une tumeur du testicule, ne pas hésiter à surveiller régulièrement qu'il n'y ait pas d'anomalie.
Alors, est-ce qu'il y a des éléments donc, qui accentuent le fait d'avoir les cancers des testicules, comme le fait de boire ou de fumer
Non, il n'y a pas d'éléments démontrés. Le seul qu'on connaisse et qu'on puisse incriminer, c'est l'absence de descente du testicule, d'un ou des deux testicules, ça peut arriver. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de façon prouvée formellement de facteurs extrinsèques. Il y a la consommation de certaines substances qui a pu être mise en exergue, mais voilà, on n'a pas de preuves formelles.
Donc, quelle est la prévention à avoir par rapport au cancer des testicules ? Est-ce que donc il faut pratiquer l'autopalpation souvent ou un truc conseillé ?
Oui, le seul geste à effectuer, c'est l'autopalpation. Alors, le rythme, c'est un petit peu difficile à déterminer, mais si on le fait une ou deux fois par an, ça devrait être suffisant. Ou si bien entendu on ressent un autre symptôme. Je disais tout à l'heure que c'est pas toujours, c'est dans la majorité des cas c'est pas douloureux, mais si bien évidemment on a une douleur testiculaire qui dure un petit peu, il faut exercer une autopalpation et ne pas hésiter à consulter, y compris pour une douleur qui persiste, même si on palpe rien.
Merci beaucoup Dr Lionel Geoffroy et Dr Simon Camille pour toutes vos informations sur les cancers masculins. Et lundi 20 novembre de 9h à 17h dans le hall d'accueil de l'Institut de cancérologie de Lorraine, au 6 avenue de Bourgogne à Vendeuvre-les-Nancy, l'association Movember PIO vous accueillera pour répondre à vos questions sur les cancers masculins. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine, c'est tous les vendredis à midi, complètement à l'est sur RCN.